Nous parlons de la prospérité.
Turavuga iby'ubutunzi.
On va reprendre ce texte de référence que nous avons et que je vous invite à méditer et à méditer et à reméditer.
Turavuga gisoma ndabinge kugira ngo mubandanye mukirimbura ko mugisoma.
3 Jean verset 2. Et la Bible nous dit, c'est Jean qui parle, il écrit à Gaius, il dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset
2.
Nous avons vu que ce verbe prospérer veut dire en faire un excellent voyage dans la vie. Ta destination finale, ce n'est pas la terre. Tu es ici en voyage, un étranger et voyageur, comme dit la parole de Dieu. C'est pour ça que tout ce que tu construis dans ta vie, tu dois le construire avec la perspective de l'éternité. Quand les chrétiens, on leur met les yeux sur la bénédiction ici-bas, les gens commencent à être très enflammés parce qu'ils veulent être bénis ici-bas.
Et
être béni, c'est très bien. Mais ça doit être le produit de la vision que tu as d'éternité. Donc en fait, être béni, c'est une bonne chose, mais n'aie pas les yeux sur la bénédiction. Nous avons vu que nous devons avoir un certain regard sur les finances. Car Dieu a fait de nous des gestionnaires de notre propre vie. Tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus propriétaire de ta vie. Tu es son propriétaire. Par contre, Dieu a fait de toi un gestionnaire de ta propre vie. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas produire dans tous les domaines, les plus spirituels jusqu'à les plus matériels, dépendra de la façon dont tu apprends à gérer ta vie. Comme je le disais tout à l'heure, notre vie est une semence. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de choses à propos de la prospérité financière, parce que nous parlons de la prospérité financière, mais ce n'est pas tout le volet, ça ne représente pas tout. La prospérité, c'est l'épanouissement général d'un être humain. La vraie prospérité, c'est d'abord à l'intérieur, la richesse intérieure que tu as. Et obligatoirement, cette richesse intérieure va se dégager vers l'extérieur, va se manifester à l'extérieur. Donc il faut que tu travailles à l'intérieur de toi et tu verras que le reste sera une conséquence. C'est pour ça que nous devons comprendre ce principe, parce que souvent, malheureusement, les gens, on leur parle de prospérité financière et ils ont les yeux sur l'argent, combien je vais avoir, combien je vais gagner.
Et c'est
une grave erreur. C'est ce qui a amené un bon nombre de chrétiens à chuter, malheureusement. À ne s'occuper qu'être béni financièrement. Non,
ce
n'est pas du tout l'objectif. Nous avons tous une relation avec l'argent. Et cette relation doit être bonne. L'argent n'est pas sale. La relation que tu as avec l'argent va être quelque chose de très important qui doit être transformé selon la mentalité divine. Nous avons vu que l'argent doit être vu comme un instrument par les chrétiens. Et cette relation que tu as avec l'argent est quelque chose de très important. Si tu vois l'argent comme un instrument pour construire le royaume de Dieu, et bien sûr pour construire ta vie, mais d'abord le royaume de Dieu en premier, Dieu touchera ta vie d'une façon exceptionnelle. Parce que ça, c'est la mentalité de Dieu. Donc nous avons vu que pour de l'argent, il y a des gens qui feraient tout et n'importe quoi. Des gens qui se pervertissent. Des gens qui seraient prêts à tuer les autres, et certains même qui le font, d'autres qui mettent d'autres en prison, d'autres qui louent leur corps pour de l'argent. Et on voit que l'argent, la relation avec l'argent est quelque chose qui peut être extrêmement mauvais ou extrêmement bon.
C'est
justement ça que le diable a voulu cacher à l'église de Dieu.
On
a montré le côté pervers de l'argent. Mais on a rarement enseigné le côté ultra positif de l'argent. Car l'argent a une puissance. Chaque fois que nous dépensons quelque chose, chaque fois que nous gagnons quelque chose, quand nous gagnons de l'argent, nous acquérons de la puissance. Quand nous dépensons de l'argent, nous libérons cette puissance. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Quand tu gagnes de l'argent, tu acquiers de la puissance. De la puissance matérielle. Quand tu dépenses de l'argent, tu libères cette puissance. Et tu peux la libérer pour le royaume de Dieu. Ou quelqu'un qui est païen, ou même certains chrétiens, peuvent la libérer pour les pires choses. L'argent a de la puissance. L'argent a de la puissance. Plus tu es riche, plus tu es puissant dans ce monde. Maintenant, cette puissance doit être canalisée. Nous avons vu qu'il y a 5 piliers de notre prospérité. Le premier pilier, c'est la connaissance de la parole. Et je vous ai montré que humilité égale pauvreté, ce n'est pas une égalité divine. C'est une égalité religieuse. Et en fait, beaucoup de chrétiens pensent que la pauvreté est un bon signe d'humilité devant Dieu. C'est faux. Nous avons vu que Jésus est mort pour nous racheter de la pauvreté. On a vu que ça fait partie de notre identification. Le premier pilier, c'est de connaître la volonté de Dieu pour nous concernant nos finances. Qu'est-ce que Dieu désire? Eh bien, Dieu désire que les richesses de ce monde soient entre les mains de ses enfants. Parce qu'on voit que la plupart du temps, les chrétiens ont délaissé les richesses. Sous des prétextes super spirituels. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se retrouvent en dessous des païens à cause d'un manque de richesses. Combien d'églises dans le monde louent leurs bâtiments? Il y en a bien plus qui sont locataires que propriétaires. Il y a certaines églises qui se font chasser parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer. Est-ce que c'est normal puisque nous servons le Seigneur qui est propriétaire de la terre? La plupart des richesses naturelles, ce sont les païens qui les gèrent, et ça devrait être les fils et les filles du roi des rois qui les gèrent. Regardez aujourd'hui à quoi sert le pétrole. La majorité du pétrole est pompée dans les pays musulmans. Qui a mis le pétrole dans la terre? C'est Dieu. Qui avait donné la gestion de toutes les richesses du monde? Adam, c'était Dieu. Aujourd'hui, on se sert de l'argent du pétrole pour financer quelque chose qui va aller contraire au christianisme. Alors qu'on ne vienne pas me dire que les richesses, c'est quelque chose de diabolique. Non, c'est quelque chose qui a de la puissance. Et qui peut être un instrument, soit pour Dieu, soit pour le diable. Maintenant, tout dépend dans les mains desquelles se trouve cette richesse. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent se réveiller par rapport à ça. Beaucoup de chrétiens sont des mendiants devant des patrons païens. Beaucoup de chrétiens se plaignent que leurs patrons les maltraitent en disant c'est un soulard. Ah, il y a des jeunes filles par exemple qui disent oui, mon patron voulait coucher avec moi parce qu'il m'a dit soit tu as la promotion et tu couches avec moi, soit tu n'auras pas la promotion. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est uniquement une position par l'argent. Donc des pressions. qui amène des gens à se retrouver en dessous, des chrétiens à se retrouver en dessous des païens. Il faut réfléchir à ces situations, frères et sœurs, pour comprendre que c'est à nous, normalement, de gérer les choses. C'est nous, les chrétiens, qui devrions avoir le plus. Donc la connaissance de la parole est importante. Le plan de Dieu pour nos finances est important. Et bien le comprendre, nous l'avons vu. Numéro 2, nous avons vu le principe de la semence et de la récolte. Et nous avons vu que c'est important d'apprendre à semer dans le royaume de Dieu. Dieu nous veut puissamment riches, pourquoi ? Pour que nous semions davantage dans le royaume de Dieu. C'est important parce que l'église de Dieu a besoin de moyens pour aller prêcher l'évangile, pour acquérir des propriétés, pour médiatiser l'évangile. Je suis en train de faire une étude sur les télévisions par satellite. Et on voit que les satellites appartiennent à des sociétés païennes. On voit que la plupart des télévisions, je crois qu'il y a à peu près 2500 stations de télé dans le monde entier. Et c'est à peu près ça. Et on a très peu de stations de télévision qui sont chrétiennes. Pourquoi ? Parce que la plupart, c'est pas qu'il n'y a pas le désir. C'est que la plupart des gens diront, j'aimerais bien, les prédicateurs vous diront, moi j'aimerais bien diffuser l'évangile au travers de la télévision, au travers de tous les médias. Mais ils vous diront, mais il n'y a pas les moyens. Il y a une certaine vérité, il y a aussi un manque de bonne confession. Donc nous avons vu que semer, c'est important. Si nous voulons prospérer, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier que nous avons vu, c'est la foi. Et nous avons vu que la foi, c'est quelque chose d'important. Surtout quand nous passons par des difficultés. Proclamer la parole de Dieu, proclamer la bénédiction de Dieu, est quelque chose de très important qui libère la puissance de Dieu. Et j'ai vu malheureusement beaucoup de serviteurs de Dieu confesser que leur église est pauvre, que leurs gens sont pauvres, qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Et ils lient eux-mêmes leurs propres chrétiens avec ça. Et j'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu dire ça. Et je trouve ça dommage. Parce que les serviteurs de Dieu, nous sommes positionnés par le Seigneur justement pour enseigner et défier le peuple de Dieu vers la prospérité. Et c'est ça qui est important à comprendre chez les serviteurs de Dieu. Maintenant, je vous ai montré que le serviteur de Dieu donnait un bon message. Mais je vous ai parlé aussi des 12 comportements du serviteur de Dieu par rapport aux finances. Et c'est très important parce qu'il doit apprendre à son peuple à faire certaines choses, mais lui-même doit être un exemple. Si le serviteur de Dieu est convoiteur, s'il se comporte mal financièrement, s'il gère mal, s'il montre des choses qui ne sont pas bonne, qui va voir ses chrétiens pour vers la fin du mois ou quoi que ce soit, c'est inacceptable. Et ceci a vraiment découragé beaucoup de bonne volonté. Des chrétiens qui voulaient donner au Seigneur et qui, par malheureusement certains comportements de serviteurs de Dieu, sont devenus extrêmement réticents. Alors, quatrième pilier, nous sommes en train de l'étudier, c'est le travail. Et je rajouterai l'excellence au travail. Vous ne pourrez pas prospérer si vous n'avez pas l'honneur au travail d'excellence. On va revoir un proverbe que nous avons vu déjà la semaine dernière et on va continuer sur ce sujet. C'est le proverbe 22, verset 29. 22, 29. Et ça, c'est vraiment important, la valeur du travail, de l'excellence au travail. C'est quelque chose qu'on doit inculquer chez les jeunes. Et que la génération un peu plus ancienne doit montrer en tant qu'exemple. Parce que, par exemple, dans ce pays, nous voyons beaucoup de gens qui ont l'air de réussir. Et un certain nombre d'entre eux, ce ne sont pas des travailleurs, mais nous l'avons vu, il y a eu beaucoup de voleurs, des gens qui ont profité de positions dans l'État, la corruption, ou des gens qui essayent d'avoir des positions, et une fois qu'ils ont la position, ce qui les intéresse seulement, c'est le salaire. Et souvent, ils montrent un exemple, ils projettent une image qui n'est pas encourageante pour les jeunes. Et je vous assure, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant de voir une génération de jeunes qui pensent que l'argent se ramasse par terre. Parce que l'argent ne se ramasse pas par terre. Il ne descend pas non plus du ciel. Et il ne pousse pas non plus sur les arbres. Vous avez remarqué. Est-ce que quelqu'un ici a un arbre où il y a des billets de banque qui poussent tous les jours? Ça n'existe pas. L'argent est quelque chose qui se produit. Et Dieu dit dans Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs, des gens qui ne sont pas clairs. » Regardons juste un peu plus haut le Proverbe 21, verset 5. Il est dit, les pensées de l'homme diligent, verset 5, 21-5, vont bien vers l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. Et je vous ai montré que le mot diligent, c'est en fait celui qui travaille intelligemment, de manière excellente. Celui qui travaille intelligemment, de manière excellente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né. C'est une mentalité. Et une mentalité qui doit se forger très rapidement chez les chrétiens. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas aller travailler. Beaucoup de chrétiens qui préfèrent dire « moi je vais prier ». Beaucoup de chrétiens qui sont moins productifs que les païens. Et ça, c'est une mentalité inacceptable. Les chrétiens doivent être productifs. Les chrétiens doivent être diligents dans leur travail. Sinon, la Bible est claire. Ça nous dirige vers la disette. Ça nous amène vers des choses qui ne sont pas claires. Donc, ça va être une mentalité. Et je vous ai montré des exemples dans la parole de Dieu. Parce que très souvent, les chrétiens disent, mais moi, vu le travail que j'ai, je ne vois pas comment je peux faire ça, je peux bien travailler, je fais un travail avec excellence. Ah, si j'étais directeur, je travaillerais avec excellence. Ah, si j'avais un bon salaire, je travaillerais avec excellence. Eh bien, désolé, tu as tout faux. Et c'est souvent une excuse. Dieu ne donne pas de promotion aux gens qui sont médiocres. Vous savez, dans différents organismes, vous pouvez avoir des promotions avec l'ancienneté. Si vous êtes 10 ans dans la boîte ou 20 ans dans la boîte, alors on vous donne des promotions. Ça, c'est pas une promotion divine. Nous parlons là de prospérité divine. divine.
De voir
Dieu toucher nos situations. Mais il faut que tu te rendes compte d'un certain nombre de choses. Dieu est un Dieu d'excellence. L'opposé de l'excellence, c'est la médiocrité. C'est la négligence. Et malheureusement, on voit beaucoup de gens qui se donnent des excuses pour la médiocrité et la négligence. Et beaucoup de chrétiens qui se donnent ces excuses-là. Et je vous ai donné deux exemples de gens qui étaient dans des situations difficiles et qui n'ont pas été ni négligents ni médiocres. Nous avons vu l'exemple de Joseph alors qu'il était esclave, lui le fils d'un prince. Et nous avons vu le prophète Daniel avec ses trois amis. Ils étaient tous dans des conditions difficiles, très difficiles. Mais ils ont tous marché avec excellence. Et ils se sont retrouvés, et bien au bout d'un moment, avoir des promotions divines. Dieu a pu œuvrer au travers de leur caractère. Dieu ne te mettra jamais dans une promotion si tu n'as pas le caractère.
Vous savez,
parfois il y a des gens qui ont des promotions et ça ne dure pas. Ils montent et ils redescendent. Alors quand tu montes, tu es peut-être un peu fier. Mais quand tu descends, tu n'as pas envie de le montrer. Vous avez remarqué ça. Hein, quand on est sur la descente, on n'a pas envie de dire aux gens, vous savez, je suis en train de descendre. Par contre, quand tu as eu de la promotion, tu es prêt, tu es le premier à dire à tout le monde, tu sais pas quoi. Mais sache une chose, si tu veux toujours monter dans la vie,
il faut
que tu travailles ton caractère.
Tu
travailles ta façon de voir les choses. Et souvent, malheureusement, nous voyons des gens qui sont négligents. Et celui qui est négligent, c'est celui qui a une attitude. Il a une attitude qui manque. Qui manque de soins et d'attention. Donc ça veut dire que dans sa mentalité, il ne soigne pas son travail, il refuse de faire attention à ce qu'il fait. En fait, il est ailleurs, il travaille mais il a la pensée ailleurs. Et vous savez, une chose qui est très importante qu'il faut que vous appreniez dans la vie, c'est quand vous faites quelque chose, il faut que vous appreniez à vous focaliser sur ce que vous faites. Quoi que ce soit que vous fassiez, c'est très important. Ça, c'est vraiment un des secrets de la vie. Ne faites pas 50 choses en même temps comme beaucoup de gens qui se dispersent. Nous parlerons des priorités. Mais apprenez à faire une chose à la fois en étant appliqué. Parce que beaucoup de gens sont là en train de faire une chose et ils pensent à autre chose.
Ce
qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça va à l'encontre du caractère de Dieu. Quand vous faites quelque chose, apprenez à vous impliquer à fond, à vous concentrer sur ce que vous faites. Apprenez à faire ça, ça va vous donner une discipline interne,
hein.
Une discipline d'excellence. Quoi que vous fassiez, faites-le en étant concentré, en essayant de faire du mieux que vous pouvez. Ça va beaucoup travailler à l'intérieur de vous. Ça va faire taire votre chair. Et ça va vous éviter de vous dissiper, de vouloir faire 50 trucs en même temps. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont l'air de travailler. Et en fait, ils sont tellement dissipés qu'ils sont improductifs. Et ça, c'est une chose. Si tu l'es alors que tu es dans une entreprise chez un patron, et que tu as la vision un jour d'ouvrir ta société, je te garantis une chose, tu vas échouer avec ce genre de mentalité. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Ils se plaignent qu'ils sont chez un patron qui sont mal payés, et c'est vrai que les salaires ici sont faibles. Quoique certaines personnes gagnent très bien leur vie, certains ont des très bons salaires avec des boulots où ils n'ont pas grand chose à faire.
Ça arrive aussi.
Mais en général, très souvent, les salaires sont bas. Et les gens se plaignent. Mais je vais vous dire une chose. Celui qui n'est pas diligent dans son travail et qui a un jour la vision d'ouvrir son propre truc, il va échouer. Profite tant que tu es chez quelqu'un, pour apprendre tout ce que tu peux apprendre. Apprendre à te concentrer, à faire chaque tâche d'une manière excellente. Si tu commences à manquer de soins, à ne pas être vigilant, sache une chose, tu n'arriveras jamais rien à faire de toi-même. Le jour où tu voudras être ton propre patron, tu échoueras. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelqu'un qui n'est pas diligent dans son travail ne pourra jamais prospérer. Même s'il a une promotion un jour, il retombera toujours. Alors, nous allons regarder et parler à propos de la paresse. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs c'est charnel, c'est normal, nous avons cette tendance, tout le monde a cette tendance, charnellement à être paresseux. Et on va voir ce que la Bible dit à propos de la paresse. Alors d'abord, j'aimerais vous dire que la paresse, ce n'est pas un mauvais esprit. Vous savez, il y a dans certains cercles chrétiens où ils sont en train de chasser les esprits de paresse et d'assoupissement. Ça n'existe pas, ce genre de truc. Ça, c'est une excuse pour la chair. La Bible nous parle à propos de la paresse. Et la Bible n'est pas très sympathique à propos de la paresse. On va voir le Proverbe 22, verset 13.
22, verset 13.
Il est dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué au milieu de la place. En fait, le paresseux, il se donne toujours des excuses pour ne pas faire quelque chose. Le paresseux, c'est exactement celui qui est à l'opposé de celui qui est diligent. Le paresseux se trouve toujours en excuse. Il va dire, oh, il y a un danger quelque part. Oh, je ne peux pas faire ça.
C'est ce que
la Bible exprime ici. D'une façon humoristique, en disant, il y a un lion dehors. En fait, si je sors, si je fais ce que je dois faire, bah, je suis foutu. Ma vie va être en danger. Bien sûr, il y a de l'humour ici. Mais le paresseux est comme ça. Le paresseux est quelqu'un qui applique la chose suivante. Il remet toujours au lendemain ce qu'il pourrait faire le jour même. Et ça, c'est la chair. Si vous faites cela, ça veut dire que vous laissez votre chair déborder. Ça veut dire que finalement, vous êtes en train de céder des choses à la chair. Et le paresseux est quelqu'un comme ça, qui se trouve toujours des excuses pour ne pas accomplir les tâches qu'on lui donne de faire. Vous lui donnez des tâches à faire, et il se trouvera toujours des excuses quand vous revenez pour savoir si le travail est fait. Pour vous prouver qu'en fait, il n'a pas pu faire le travail parce que. Et ça, ce sont des gens qui sont vraiment inutiles. Qui font perdre le temps. Qui sont improductifs. Les paresseux, vous savez, c'est des gens, ils sont. La Bible est claire. Vraiment, la Bible condamne beaucoup la paresse. Regardons Proverbe 24. Proverbe 24, on va voir l'irresponsabilité du paresseux. Proverbe 24, verset 30. Il est dit, j'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties poussaient partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'en ai tiré l'instruction. un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains en te couchant, et la pauvreté, regardez bien, te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en armes.
Ngo naciye ku ndimiro y'umunebwe no ku ruzabibu rw'umuntu atagira umutima nasanze hose huzuye amahwa ndahitegereje ndayumvira cyane ndabiraba biranyigisha guca agatiro gakenya kuba usinziriye gatoyi kwisegura amaboko gatoyi uko ni kubwo ubworo bwawo buzogushikira.
Donc le paresseux, c'est exactement l'opposé de celui qui est diligent. Donc on a vu que le paresseux se trouve d'abord des excuses. Ensuite, le paresseux est quelqu'un d'irresponsable, on le voit ici. Il amène les choses à tellement négligées. Il ne prend pas ses responsabilités. Il laisse les choses se faire. Sous le prétexte qu'il n'a pas vraiment envie de travailler. Et le résultat, c'est l'improductivité. C'est la pauvreté et la disette, c'est-à-dire la faim. C'est ce que la Bible dit, et c'est tout à fait vrai. Donc on voit que le paresseux est quelqu'un d'irresponsable. On va lire aussi le proverbe 26, elle nous parle des paresseux. On va lire à partir du verset 14, mais c'est le verset 16 qui va m'intéresser. Parce que je trouve trop drôle le verset 14. Voilà ce qu'il est dit du paresseux. Comme la porte tourne sur ses gonds, vous savez, la porte, là, les gonds, c'est ce qui tient une porte, le paresseux sur son lit. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit une chose. Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Le paresseux, lui, il trouvera toujours une excuse pour continuer son sommeil. Il trouvera toujours une excuse pour son retard. Et les gens qui sont comme ça, croyez-moi, ils n'y arrivent jamais. Verset 15, il fait encore plus d'humour, là, Salomon. Il dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Allez, on va au verset 16. C'est l'arrogance. On va voir l'arrogance du paresseux. Il est dit, le paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme qui répond avec bon goût. En fait, le paresseux se pense plus intelligent. Il est arrogant, ce qu'on appelle. Très souvent, il va dire, non, moi je sais mieux que les autres. Et il faut faire attention avec ce genre d'attitude. Vous n'arriverez jamais à être béni et à prospérer dans cette vie. Si vous êtes paresseux. C'est la mentalité de l'anti-productivité. C'est la mentalité de celui qui veut toujours être assisté. Toujours vivre aux dépens des autres. Pourquoi ? Parce que le paresseux n'est pas productif. Le paresseux ne produit rien. Par contre, ça sera souvent quelqu'un qui va beaucoup parler. Et le proverbe 14, verset 23, nous dit la chose suivante. Proverbe 14, verset 23. Il est dit, en tout travail se trouve du profit, mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. Vous savez, souvent les gens paresseux, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Ils vous racontent toutes les grandes expériences qu'ils n'ont jamais eues. Ils vous raconteront beaucoup de discours sur les autres. Beaucoup de critiques sur les autres. Mais la Bible est claire. Sans les actions, c'est-à-dire des paroles seules, sans activité, eh bien, en fait, c'est la disette. C'est le manque. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre cela. Vous savez, pour les chrétiens, c'est facile de se cacher derrière la prière. C'est facile aussi d'accuser les autres parce qu'on s'est fait virer. Si t'es paresseux et que tu t'es fait virer parce que t'arrives tous les jours en retard, ne viens pas te plaindre, ne va pas dire c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi. Ne va pas dire c'est ton patron. Non, c'est toi. C'est parce que tu es paresseux. Parce que tu n'es pas productif, parce que tu arrives en retard. Et que tu es payé pour un certain nombre de choses que tu dois faire.
Et
il est très important d'apprendre à être diligent. Refuser d'être paresseux, refuser d'être négligent. Refuser ces attitudes qui sont charnelles. Parce que sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Vous aurez beau prier, et je vois des gens comme ça. Vous savez, depuis qu'on a commencé cette église, depuis 12 ans, on a enseigné beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui ont compris. Et vraiment, le Seigneur les a bénis d'une façon incommensurable. Mais il y en a d'autres. On les voit. Ils veulent traîner, jouer les super spirituels, etc. Ces gens-là ne sont pas productifs dans la vie. Que tu aies un certain temps pour recevoir un message et que ce message te transforme, c'est normal. La parole de Dieu ne te transformera pas du jour au lendemain. Il y a un travail de mentalité. Il y a un travail de changement, de compréhension. Un travail d'apprentissage au niveau de la parole de Dieu. Mais au bout d'un moment, ça doit porter ses fruits. Ça peut mettre quelques années. Mais au bout d'un moment, ça doit porter ses fruits. Et c'est là où on doit voir le fruit de ce que tu fais. Parler est une chose, ce que tu fais est une autre chose. La Bible dit dans Deutéronome 28, Deutéronome 28, verset 12, Dieu est clair. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc Dieu bénit quoi? Le travail de nos mains. Et ça, c'est une bonne prière que vous faites, que vous devez faire et que vous devez proclamer sur votre vie. Le travail de tes mains. Seigneur, merci parce que tu bénis le travail de mes mains. Et tu vas voir que Dieu va de plus en plus ouvrir des portes pour ta productivité. Mais pour cela, tu dois avoir cet aspect d'excellence. Cet aspect du travail bien fait. De l'application au travail. Comme je le disais la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'évaluer eux-mêmes quand ils travaillent. Il y a des gens, ils font un travail. Vous leur dites de faire un travail. Et en fait, quand vous leur dites non, ça ne va pas du tout ce que tu as fait. Alors que 5 minutes avant, vous leur avez posé la question. Est-ce que tu as bien fait ce que je t'ai demandé? Et vous examinez leur travail. Vous leur dites non, ça ne va pas. Souvent, ils ne vont pas comprendre. Et ça, ce n'est pas normal. Nous sommes influencés par le Saint-Esprit. Nous sommes influencés par la parole de Dieu. Ce que tu dois faire, ce que tu dois créer dans ta vie doit être de la qualité et de l'excellence. Ça
ne
doit pas être le truc zapirate. Ou le chinois de qualité ultra inférieure. Dont on se sert deux fois et ça casse. Non, apprenons, frères et sœurs, à être un peuple d'excellence. Vous savez, quand Dieu a donné le tabernacle à faire et tous les ustensiles qu'il y avait dedans, Dieu a donné cela à Moïse et lui a montré tous les détails. De A jusqu'à Z. Moïse l'avait tout de A jusqu'à Z. Parce que Dieu est un Dieu de détails au niveau de ce qu'il veut. Au niveau de la productivité que nous devons avoir. Dieu est intéressé par une qualité de ce que tu fais. Pas la qualité selon ton standard, mais selon son standard. Et quand tu as ce genre de mentalité, Dieu te fera prospérer. C'est ce que Joseph avait comme mentalité. Joseph avait ça comme mentalité. C'est ce que Daniel et ses amis avaient comme mentalité. C'était des gens d'excellence, d'une mentalité élevée. Ce n'étaient pas des gens de négligence, des gens fainéants, des gens qui se trouvaient des excuses pour dire non, je ne veux pas faire ça parce que. Mais tout ce qu'ils avaient devant leurs yeux à faire, devant leurs mains à créer, ils le faisaient. Du mieux qu'ils pouvaient. Apprends à faire ces choses. Arrête d'être négligent. Arrête de te trouver des excuses. Mais apprends à être extrêmement sérieux dans ce que tu fais. Et tu vas voir comment Dieu va commencer à ouvrir des portes pour toi. D'un seul coup, tu vas trouver des faveurs exceptionnelles. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit au départ, quand on a lu les premiers versets. En Proverbe. Oui, il est dit justement que celui qui est diligent dans son travail va se retrouver devant les rois, devant les leaders. C'est quelqu'un qu'on va repérer. Vous savez, les médiocres et les fainéants, on les repère du côté négatif. Et que ce ne soit pas du peuple de Dieu qu'on entend. Mais qu'au contraire, on puisse dire celui-ci ou celle-là, waouh, elle m'impressionne, il m'impressionne. C'est quelqu'un, quand il fait son boulot, il fait vraiment son boulot. C'est quelqu'un d'excellence. Tu auras la faveur des gens. Tu auras la faveur des leaders. Tu auras la faveur des gens que tu n'imagines même pas. Ils te repéreront directement. Pourquoi? Parce que Dieu mettra en eux quelque chose pour que ta vie soit touchée impacté par eux. Et d'un seul coup, on va te dire, mais tiens, pourquoi tu ne serais pas ça? Tiens, j'ai un excellent travail pour toi. Et d'un seul coup, tu auras ta promotion. Mais souvent, les gens ne sont pas comme ça. Ils sont médiocres, ils veulent des promotions. Mais si tu es médiocre et que tu as une promotion, tu vas faire un travail médiocre et tu vas te faire virer.
Après.
Ou alors, tu vas mettre par terre l'organisation dans laquelle tu es un leader et dans laquelle on t'a donné une position. Et le jour où tu partiras, on dira ouf. C'était quelqu'un qui faisait des choses qui n'étaient vraiment pas bonnes. Et c'est vraiment dommage. Nous ne devons pas être ce genre de témoignage. Je vous rappelle une chose. Vos actions parlent plus que vos mots. Si vous êtes quelqu'un d'excellence et que vous avez parlé de Jésus à la personne qui vous regarde, cette personne verra que vous vivez quelque chose qui est conforme à vos paroles. Malheureusement, on a souvent le contraire. Des gens qui n'arrêtent pas de parler. Jésus ceci, Jésus cela. Et qui montre une qualité de travail d'une médiocrité épouvantable. Et ça, ce n'est pas acceptable, frères et sœurs. Alors, comment devenir diligent? La première chose qu'il faut faire, c'est ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire et on doit faire le jour même. Apprenez à vous discipliner, à vous forcer à faire certaines choses, à dire, voilà, je dois faire ça aujourd'hui. Je ne vais pas le reporter à demain. Ça, c'est vraiment un travail de mentalité. Tu es là et tu dis, non, je dois faire ce travail. J'ai un temps pour le faire. Je dois très bien le faire. Je passerai le temps que j'y passerai. Mais je le ferai aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est une discipline interne. Il y a des objectifs où on t'a demandé de faire certaines choses. Et arrête de dire, non, 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 je ne pourrais pas le faire. Non, non, je n'ai pas le temps. C'est trop, etc. Non, apprends à te discipliner. Même si ça te coûte. peu importe. La deuxième chose, c'est de définir sa vision. Ça, ça fait partie, bien sûr, en partie du leadership, mais en général dans la vie. Il faut que vous ayez des objectifs. Vous pouvez très bien vous dire, moi je vais travailler dans cette société-là pendant un certain nombre de temps. Mais ma vision, c'est d'ouvrir mon business. Ma vision, après, c'est de pouvoir me financer pour des études et aller plus loin. Tout ça, c'est très bien parce que vous avez une vision. Vous avez une motivation. Si vous êtes là dans votre vie en général et que vous n'avez aucune vision, ça veut dire que vous n'avez aucune direction. Vous n'avez pas de motivation. Vous n'avez pas de joie. Vous n'êtes pas passionné. Vous perdez votre créativité. Vous perdez votre engagement par rapport à ce que vous vouliez faire au départ. Regardons par exemple ce que dit la Bible dans Proverbe 6 à propos de la fourmi. C'est étonnant, mais Salomon a observé la fourmi. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des fourmis, mais en général, on ne les observe pas trop. On voudrait plutôt s'en débarrasser. Mais Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, il a observé la fourmi. Et il en a tiré des leçons. Regardons ensemble chapitre 6 de Proverbes. Il est dit, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains en te couchant, ça nous dit quelque chose déjà. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Tu peux lire surtout le verset 8. « Kumurongo munane ngo chiziganiza indya zacho muci kikikenyegeza ibyo kurya byacho mwiyimbura. » Alors, ici, la Bible, en fait, nous dit, elle n'a pas directement de leader, la fourmi. Elle n'a pas de capitaine. Mais pourtant, elle pense au futur. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson. Donc, la fourmi, elle est tout le temps focalisée sur des objectifs. Tu dois apprendre à avoir des objectifs dans ta vie. Si ta vie est inutile aujourd'hui, tu as un sentiment d'inutilité, c'est que tu as un problème de vision. Donc il faut que tu demandes au Seigneur ce pourquoi tu as été créé. Et il va falloir que tu entres dans la vision divine, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain. Rappelez-vous, Joseph, lui, il était en train de nettoyer le sol. Il faisait le rôle du travailleur. Pourtant, Dieu lui avait donné une vision absolument exceptionnelle. Mais il savait qu'un jour, Dieu relèverait sa tête et qu'il deviendrait la personne pourquoi Dieu l'avait destiné. Mais entre-temps, il travaillait en lui. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un temps de travail en nous. Et ce temps de travail, souvent, c'est là où on néglige. C'est là où on se dit, je dois devenir ça, donc j'attends de le devenir, et d'un seul coup, tout se passera pour moi. Et c'est là une des plus grandes erreurs que j'ai remarquées. Chez beaucoup de gens, ils veulent devenir des choses, parce que Dieu leur a montré, et c'est bien. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu les a placés à l'école pour l'instant. Et souvent, ils n'acceptent pas les cours des leçons de la vie. Ils ne prennent pas les opportunités qui sont devant eux pour grandir et pour travailler en eux là où ils sont, au niveau là où ils sont. Ce qui fait que Dieu ne peut pas les amener plus haut. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui restent parce qu'ils manquent de vision et qu'ils refusent de faire ce qu'ils doivent faire à la base. Ensuite, une autre chose qu'il faut apprendre à faire dans la vie pour apprendre à être diligent, c'est à chercher le conseil des autres. Proverbe 15, verset 22. Il est dit, les projets échouent, faute de délibération. mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.
Ngo ahatagira inama imigabo irapfa ariko mu bajanama benshi irakomera.
Et ça, c'est un problème que l'on voit chez beaucoup de gens. Moi, personnellement, j'ai eu une éducation quand j'étais jeune où chacun se débrouillait tout seul, on n'avait jamais besoin des autres. Et ça m'a coûté beaucoup dans ma vie. Parce qu'à chaque fois, je prenais des décisions et je voulais faire des choses et je ne prenais pas de conseils. Il m'est arrivé de perdre beaucoup de sommes d'argent comme ça. De perdre des choses aussi. De perdre des relations. Par manque de conseils. En voulant être mon propre chef et moi-même me conseiller moi-même, entre guillemets. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Si vous voulez apprendre à être diligent, vous avez besoin des conseils des autres. Si vous voulez vraiment travailler avec excellence, il y a des gens que Dieu placera dans votre vie qui vous aideront à changer votre mentalité. C'est pas toujours facile d'accepter que quelqu'un vous dise non, tu devrais pas faire comme ça, mais comme ça. Mais quand tu as ce genre de bons conseillers autour de toi, et je ne dis pas que toute personne autour de nous qui peut nous donner des conseils sera forcément de bons conseils. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils vous conseillent et ils se plantent complètement. Mais il y a des gens qui peuvent vous aider. Quand vous faites quelque chose, à vous donner une perspective, une connaissance, un savoir, qui vous permettra de mieux faire ce que vous êtes en train de faire. Et souvent, on refuse ces choses-là. On dit non pour différentes raisons. Des fois, c'est par orgueil. Et quand on va accomplir ce qu'on a à cœur d'accomplir, on le fait beaucoup moins bien que ce qu'on pourrait faire. Donc, dans la vie, nous avons besoin de conseillers. Nous avons besoin de gens qui sont des mentors aussi, des gens qu'on reconnaît comme étant des pères. Parce que souvent, nous n'avons pas de repères dans la vie. Ce qui fait que nous allons prendre des décisions, nous allons vouloir œuvrer dans certains domaines. Et on n'a personne pour nous aider, pour nous coacher, pour avoir un bon impact sur vous. La quatrième chose, si vous voulez apprendre à travailler diligemment, c'est vraiment de chercher la sagesse et de fonder votre vie sur elle. Proverbe 16, verset 16. Il est dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La sagesse, c'est apprendre à mettre en pratique la connaissance que nous avons dans un domaine particulier. Et souvent, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On se lance dans des activités, on se lance dans tout un tas de choses avec nos propres mentalités, nos propres idées. Et la Bible est claire. C'est pour ça que la Bible ne dit jamais d'aller chercher l'argent. Cherche la sagesse. Tu vas apprendre à travailler intelligemment. Tu vas apprendre à travailler avec excellence. Et le produit sera que tu vas être très productif au niveau finance. Mais si tu n'as pas la bonne mentalité, si tu n'es pas influencé par la sagesse divine, cela va t'amener à faire des choses qui ne seront pas excellentes, qui seront médiocres, qui ne seront pas diligentes, qui seront peut-être du travail. Vous savez, des fois, il y a des gens qui travaillent très dur et qui produisent peu. Ils reviennent chez eux et jour après jour, ils échouent et ils s'épuisent. Dieu ne nous appelle pas à ça. Parce que ces gens-là, parfois, ils ont envie de travailler, ce sont des travailleurs. Et nous verrons aussi qu'il y a une gestion à voir. Ce sera le cinquième pilier que nous étudierons dans la prospérité. On verra que quelqu'un qui veut prospérer, c'est quelqu'un qui sait gérer son temps, qui sait gérer ses priorités. Et vous pouvez très bien travailler extrêmement dur, même 18 heures par jour, et produire peu. Alors que si vous travaillez intelligemment, vous pourriez travailler quelques heures par jour pour la même production. Maintenant, tout ça, ça fait partie de la sagesse. Il faut savoir travailler intelligemment. Il
ne
faut pas être fainéant. Paresse est condamné par la parole de Dieu.
Il ne
faut pas être négligent.
Il
ne faut pas être médiocre. Mais nous verrons aussi qu'il faut savoir gérer ses priorités. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans l'excès inverse. Les heures et les jours où ils travaillent, c'est innombrable. Mais ils ne sont pas réellement productifs. Parce que travailler intelligemment, c'est arriver à produire par rapport aux heures que tu donnes. C'est-à-dire que tu utilises ton temps et tu te concentres sur ce qui va profiter le plus. Produire le plus. Ça fait partie de travailler intelligemment. Ça fait partie de savoir gérer ses priorités. Et ça sera dans les cours suivants. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle que demain, il y a la deuxième année d'Institut biblique. Samedi, bien sûr, il y a les deux années. Et puis, dimanche, il y a le culte. Voilà, passez une super fin de soirée. Et surtout, travaillez intelligemment. Apprenez. Et en excellence.